Bonjour à tous et bienvenue à ce 28e épisode du podcast À la coupe saison 2 qui vous est présenté par la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles pour votre bière hockey. N'oubliez pas de penser à la bière, la Montminou à la coupe. Cette semaine a été une semaine qui a été haute en couleur au niveau de la sphère hockey puisque bien entendu les séries éliminatoires de la LNH sont en cours mais aussi les séries dans la Ligue junior majeure du Québec. Alors maintenant la question que je vous pose, comment va votre Bracket Challenge? Pour ma part, mes champions de la Coupe Stanley ont été sortis, fait que les Hurricanes, c'est maintenant terminé. Pour ainsi dire, auprès de l'équipe à la Coupe, le seul qui est à peu près proche d'avoir quelque chose qui a du sens va être P.O. Normand, qui lui a les Golden Knights en finale. Donc, personne ne peut aller chercher un champion de la Coupe avec les Bracket Challenge au niveau du alacoupe.ca, mais en échange de quoi, on en a un au moins qui a réussi à avoir une des deux équipes finalistes. Fait que félicitations à lui. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur nos différentes plateformes puisqu'on est présent sur Spotify, Twitter, YouTube, Instagram ainsi que Facebook, toujours au nom de À la coupe. Ensuite de ça, on a un bracket challenge ici. Alex Delcourt, mon bracket va très mal. Écoute, je te comprends mon cher ami, je te comprends. Et bonjour d'ailleurs Alex. Alors, de cette semaine, au niveau du alacoupe.ca, on a eu différents articles, dont entre autres les préparatifs avant le grand jour signé par notre chroniqueur LHJMQ Junior Frédéric Knight, qui lui nous donne un portrait des différentes équipes qui vont se présenter pour la Coupe Mémorial, dont entre autres les représentants du Québec, qui est les Remparts de Québec, qui pourraient continuer la lignée pour la LHJMQ pour ce qui est de l'obtention de la Coupe Mémorial. On a également une série des records signés par notre chroniqueur Vincent Larue, qui parle de plusieurs records qui ont été établis au niveau de la série entre les Hurricanes et les Panthers de la Floride. Un texte à voir sur le alacoupe.ca et également un départ qui en dit long du côté de Samuel Fournier, au niveau de la LNH. Il nous parle de l'espoir Leon Gavanteke des Jets qui a décidé de quitter. Alors, c'est un rendez-vous sur le alacoupe.ca. Sans plus attendre, maintenant, on va faire entrer un de nos collaborateurs qui a clairement un parti pris sur le match de ce soir. Sam, comment ça va?
Ça va correct.
L'hésitation là-dedans, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe?
Les Golden Knights en finale, c'est ça qui va se passer.
Ouais, disons que...
C'est le dernier recours que j'ai trouvé, de mettre mon jeu des Stars. La dernière fois que je l'ai mis, ils ont gagné le match numéro 7. Fait que là, je veux juste au moins qu'ils en gagnent un. Un seul petit match.
Au moins question de sauver, disons, la face devant la Ligue nationale, parce que c'est franchement décevant jusqu'à date, le 0-3 pour les Stars. Et... Écoute, je sais bien, ton cœur est avec les Stars, mais ton capitaine, c'était pas fort.
Sérieusement, c'était pas fort, mais Jamie Benn a prouvé dans les dernières années que c'est quand même un bon capitaine. Il a une crampe au cerveau monumentale, mais pour moi, ça fait pas de lui un mauvais capitaine pareil. Il a fait un mauvais geste, mais personne n'est parfait. Fait que, je pense qu'il va s'en vouloir longtemps, mais Jamie Benn, je le prends n'importe quand dans mon équipe pareil. C'est une erreur de parcours, mais il ne faut pas juste se souvenir de Jamie Benn qui fait ça. Il faut se souvenir de Jimmy Benn, que c'est un leader, un gars qui a fait Team Canada. C'est aussi le gars qui est resté dans la chambre 2 heures après son élimination. Je pense qu'il avait perdu en finale. Assis, bouge pas. T'sais, c'est un gars qui veut gagner, mais il est arrivé quelque chose, une crampe au cerveau. Que, je sais pas si Mark Stone et lui avaient déjà eu une altercation quelconque, mais c'était vraiment pas le moment de faire ça. Mais c'est arrivé. Fait que ça peut aussi donner un boost aux Stars, je pense, de dire on va la gagner pour notre capitaine ce soir. Fait que je sais qu'il y a beaucoup de blessures. Là. Je pense que Pavelski était incertain pour ce soir. Et j'espère que Maverick Book va jouer. Je ne sais pas si ça a été confirmé.
J'essaie de regarder ça. Oui, mais je ne sais pas, non, je pense.
Il a joué sur le. Il pratiquait sur le premier powerplay ce soir. Ben, ouais, pratique okay. Un matin. Mais c'était pas clair s'il jouait. Fait que j'essaie de regarder ça, là, mais.
Mais sinon, juste pour revenir vite, ouais. Jimmy Benn, je pense qu'il y a un élément que j'ai pas particulièrement aimé, c'est le fait que sa raison, c'est j'ai tombé dessus. Je veux dire, en quelque part, prends le blâme du fait que tu as fait une erreur, puis dis, ben écoute, c'est une erreur, mais c'était sous l'émotion, la titre, puis on passe à autre chose.
Hein. Ouais, c'est sûr que c'était pas la raison la plus intelligente, mais je pense pas qu'il pouvait arriver puis dire demain midi, ouais, j'ai voulu écrire ça un crochet dans la face. Fait que. En même temps, je pense que c'est un job de PR. Il n'est pas arrivé là de même. Là. Ils ont dit quoi dire. Puis je pense que c'est la meilleure solution. La meilleure raison qu'ils ont trouvé, c'était ça. En tout cas, laisse-moi en douter.
Oui, c'est ça. Écoute, ça se travaille, ma tombe. Je veux aussi te parler de Max Domi. Max Domi qui a été plus que émotif, lui aussi, dans son pas de suspension, mais expulsion de match. En séries éliminatoires, Max Domi, c'est quand même 52 minutes de pénalité.
Ben Max Domi, c'est un gars qui est émotif, on le sait. C'était en fin de match, je pense que c'est arrivé, ou en fin de deuxième, je ne suis pas sûr. C'était avec Nicolas Haig. Par contre, j'ai trouvé que Haig en a mis ses talents de comédien. Pourrait peut-être recevoir un petit cachet de l'Union des artistes, je crois. j'ai trouvé qu'il y en a mis qui s'est laissé tomber. Un gars de 6 pieds 4, 6 pieds 5 qui tombe de même. Là. En plus, qui se relève et qui rit après. Laisse-moi douter de la sévérité de la chose, mais Max Domi, c'est pas le premier double échec de dos qu'on va voir, puis c'est certainement pas le dernier non plus. Mais je pense qu'à 4-0, là, le match est resté 4-0 assez longtemps quand même. Fait que la frustration à un moment donné s'empare de... Moi, je suis comme ça au hockey, je suis un gars qui contrôle pas trop ses émotions, fait que je comprends un peu les joueurs aussi de faire pareil.
Je comprends. Mais en même temps, tu sais, il y a une espèce de manie de vouloir se battre avec des gens qui ne veulent pas se battre. Puis c'est loin d'être la première fois qu'il fait ça dans la ligue. Là. Puis maintenant, en quelque part, pour moi, il va falloir qu'il soit suspendu si tu veux qu'il comprenne.
Là. Ouais, ben, j'ai pas vu exactement le. Est-ce qu'il a voulu se battre avec Nicolas Haig ou.
De mémoire, il me semble qu'il y avait droit à Kylian puis il frappait. Là.
Ok, parce que Nicolas Haig, c'est le gars de Darnell Nurse aussi qui avait été suspendu, mais que ça a l'air qu'il voulait se battre. Fait que, en tout cas. Peut-être qu'il s'est encore dit qu'il voulait se battre avec Domi à un moment donné, puis Domi, tu sais, des affaires qu'on n'entend pas toutes sur la glace, on sait pas le pedigree des deux joueurs ensemble. Peut-être qu'ils se sont déjà dit qu'ils allaient se battre, puis que là, l'autre, il y en a un qui voulait, puis en tout cas.
Mais Domi, mais je t'accorde que Domi,
oui, il y a des antécédents. Des antécédents, ça, c'est sûr. Mais, comme je t'ai dit, il s'excuse pas le geste, mais je comprends d'avoir fait ça pareil. J'étais pareil au hockey.
Ouais, mais en tout cas, c'est parce que là, c'est des matchs qui comptent. Là, puis
oui, je pense que le match était terminé là, quand il a fait ça. C'était pas 1-1 en troisième, en fin de troisième non plus, mais je comprends ton point absolument. Puis il va falloir qu'il se calme parce que c'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir des réprimandes.
Puis sinon, ben écoute, un côté qui est beaucoup plus positif du côté des Stars de Dallas, c'est la performance de Rupe Hintz en séries éliminatoires. C'est un des meilleurs pointeurs au niveau de la Ligue en séries éliminatoires. On parle de 20 quelques points.
Il est exceptionnel. 22 points. C'est pas un joueur, quand il est arrivé dans l'international, que les gens attendaient. Là. Personne connaissait Rupe Hintz, puis je m'inclus là-dedans. Je veux dire, j'avais jamais entendu parler de ce gars-là. Je pense que c'est un choix de troisième ronde, deuxième ronde, en tout cas. Puis... un gros bonhomme qui a un excellent coup de patin, un excellent lancer. Puis il est dans la lignée des Jason Robertson, des Wyatt Johnston, des joueurs, des jeunes prospects. Ben, des prospects, Rupe Hintz, c'est pas un prospect, mais c'est un joueur établi. Puis, tu sais, c'est pas un feu de paille. Il a fait ça, ça fait 2 saisons qu'il performe. Puis là, en série, on dit souvent qu'en série, on voit les vrais. Ben, Rupe Hintz, en tout cas, 24 points là, en série, c'est un vrai. Puis c'est un des seuls qui, à date, joue bien pareil, même si les Stars ont des problèmes. Mais la série s'est jouée, selon moi, au match numéro 2. quand les Stars avaient les devants 2-1. En fin de troisième période, ils ont fait scorer 2-2 puis ils ont perdu en prolongation. Deux games en prolongation quand même là-dedans. À part avant la game, ça avait été quand même assez serré. Fait que c'est plate que ça va probablement se terminer en 4, mais...
Mais ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais envie de parler avec toi. Tu sais, tu disais, avant qu'on commence les séries, tu n'aimais pas la structure des séries, parce que tu disais, ce n'est pas nécessairement les meilleures équipes qui vont se rendre en finale. Puis là, moi, je disais, ben, tu sais, ça reste que c'est des équipes qui vont réussir à battre des meilleures pour se rendre jusqu'à là. Bon. Mm-hmm. Et là, on arrive en semi-finale. C'est deux séries qui vont se finir peut-être en 4, mais il n'en reste pas moins que dans les deux séries, ils sont rendus en prolongation lors des deux premiers matchs.
Oui, puis si je peux me permettre, là, les Panthers et les Hurricanes, les quatre matchs ont été super serrés. Des matchs enlevant jusqu'à la fin. Comme Rod Brind'Amour a dit dans son entrevue d'après-match, on a perdu en quatre, mais je pense que les quatre matchs auraient pu être d'un bord puis de l'autre. Le premier match en quatrième prolongation. Quand tu es en quatrième prolongation, c'est parce que c'est serré. C'est très serré. L'autre match avait été un peu moins long, mais en prolongation aussi. Hier, un but à 4 secondes de la fin. Je veux dire, c'est en allant en prolongation, on ne veut pas. Là. C'était un but gagnant hier à 4 secondes. Là. C'était fini. Ouais. Mais chapeau aux Panthers, pour vrai. C'est de la résilience. C'est une équipe qui ne lâchera jamais. On est rendu en troisième ronde, on sait ce qu'ils vont donner. Ils ne lâcheront jamais, puis ils veulent gagner. Tu vois que les joueurs... Quand ils font leurs chiffres, là, genre, tu vois qu'il y a de quoi de plus dans cette équipe-là que les autres équipes qui ont affronté, je trouve.
Oui, je suis assez d'accord, mais avant qu'on aille là-dessus, on va continuer avec la série de Corée de l'Ouest qui va avoir lieu là. Le match doit commencer.
Oui, c'est l'hymne national présentement.
Sinon, je veux qu'on parle un peu du gardien de but que j'aime beaucoup, Jake Oettinger, mais qui a des difficultés actuellement en séries éliminatoires. On parle de 16 matchs, 3.02, 895. C'est un gars qui a volé des séries par le passé. Manque de confiance de son côté? Est-ce que c'est la défensive qui l'abandonne? On bloque-tu moins de tirs?
Je pense que c'est tout ça en même temps. Puis tu sais, je veux dire, il y a des buts qui ne peuvent rien faire aussi. Là, on va se dire que ce n'est pas juste de sa faute. Mais par contre, il ne fait pas le ou la grosse arrêt qui permet de mettre ton équipe dans le match. Il a accordé des mauvais buts au mauvais moment surtout. Fait que si on avait eu Jake Oettinger des séries l'an dernier, je pense que les Stars auraient été différents, effectivement. Mais dans les deux premiers matchs, je pense qu'il a très bien gaulé, à part le but en prolongation lors du premier match qui avait l'air perdu, mais c'était un mauvais rebond. Là. Mais le dernier match, je pense que le fait qu'il soit sorti, je pense que c'était correct à un moment donné. Ça a peut-être permis de se reposer, de s'en remettre. C'est un couteau à double tranchant. Ça va-tu briser une confiance qui était déjà brisée, on va se le dire. Mais ça va peut-être y dire faut que j'en donne plus, c'est pas fini. Tu sais, ça reste que c'est pas fini.
Non,
même si c'est presque impossible, il y a quatre équipes qui l'ont fait, si je me rappelle bien. Puis les Kings l'ont fait. Ouais. Les Kings l'ont fait en 2012, je crois. Ou en tout cas, une de leurs coupes cette année, l'ont fait contre des Sharks. Ils perdaient 3-0, ils ont gagné 4-3.
Ouais, il me semble que c'est genre en première ronde, si je me rappelle bien. Là. Puis,
ouais, première ou deuxième, il me semble.
Il avait battu les Coyotes en finale de l'Ouest. All right, on va y aller maintenant du côté de Vegas, parce que du côté de Vegas, ça va peut-être un peu mieux. Et bien entendu, toi, c'est un gardien pour qui tu as beaucoup d'estime. Moi, j'en avais peut-être un peu moins. Aiden Hill, qui a quand même 8 matchs en séries éliminatoires. Très surprenant de dire 1.96, 940 d'efficacité. Je veux bien que tu aies de l'estime pour le gars, mais au point de dire qu'il y a 940 d'efficacité, viens pas me dire que tu as vu ça venir.
J'ai de l'estime pour le gars pour un deuxième gardien, un backup, mettons. Par contre, j'ai de l'estime pour lui, mais il faut aussi donner crédit au système des Golden Knights. Il donne un tir, mais il donne jamais le rebond dans l'enclave. Jamais il y a des chances A+ qui vont jouer là. Ben, peut-être une fois, là, mais je veux dire, le jeu est tellement fermé. Les Golden Knights jouent un jeu un peu comme les Hurricanes, je trouve, avec un peu plus de talent, je trouve. Il y a plus de talent offensif, il y a plus de joueurs défensifs qui sont, tu sais, les Pietrangelo, McNabb, White Cloud, on n'entend jamais parler de ce gars-là, mais il est très, très efficace défensivement. Oui, Eden Hill fait les gros arrêts, mais il n'y a pas besoin d'en faire deux trop, parce que le gros arrêt, il fait, après ça, la puck s'en va. Fait que je pense qu'il joue un hockey qui est quand même assez basic, là. Il fait les arrêts, il est gros bonhomme, mais c'est sûr que c'est pas un trophée Vézina. Il ne gagnera jamais le trophée Vézina. À moins d'un miracle.
À moins d'un revirement. C'est
pas l'année prochaine, mais le gars est en confiance aussi. La confiance, quand un athlète est en confiance, ça, n'importe qui peut faire des grosses performances comme ça. Puis Adin Hill est en confiance présentement.
Je me souviens, back in the days, quand je jouais au hockey Cosum, toi. Je jouais comme défenseur à un moment donné. Puis tu sais, quand tu dis, là, j'ai donné du fil à retordre aux meilleurs attaquants. J'ai contre-attaqué, j'ai eu une passe dans les airs, frappé dans les airs, direct dans le net. Confiance, Asti.
Ça, c'est de la confiance.
Ah, ça l'a rentré par l'autre. All right. Mais sinon, tu sais, quand même, du côté des Golden Knights, il n'y a pas juste lui. Mark Stone, on parle de 15 points en 14 matchs. Mm-hmm. Sinon, Jack Eichel, on parle de 16 points en 14 matchs.
Jack Eichel... Incroyable, Jack Eichel. Pour vrai, le gars s'est tellement fait blaster à Buffalo. Il se faisait dire que c'était un mauvais capitaine, un mauvais coéquipier, un gars qui avait une mauvaise attitude. Présentement, c'est même pas l'attaquant le plus utilisé. Je pense que la deuxième game, il a joué 16 minutes. C'est pour un joueur qui est étoile, élite, 16 minutes, c'est pas beaucoup pour un match de série. Mais le gars accepte le système. Il a accepté le système, il joue dedans puis il fit bien dedans. Mais Jack Eichel joue des grosses séries. Contre Edmonton, il a fait des gros buts. Sérieusement, chapeau Jack Eichel, tu arrêtes de faire mentir tout le monde. Puis Mark Stone, en plus, le gars est clairement blessé au dos, on le voit là. Il y a des chiffres, des fins de chiffres très difficiles, mais le gars, il veut gagner. Fait que, je pense que ça booste aussi les Golden Knights. Quand un de tes joueurs, un de tes vétérans, un de tes leaders donne tout alors qu'il est blessé, ça donne. Je pense que les gars, ils prennent deux pouces de plus là, juste à cause de ça. Les Golden Knights, c'est une équipe que j'aime pas, là. Je l'ai assez dit, mais ça reste que ce qu'ils accomplissent présentement, c'est quand même, faut quand même lever leur chapeau, puis sont bien bâtis. Ils sont bien bâtis, pareil.
Il y a un point, par exemple, que j'aimerais juste soulever dans ce que tu viens de dire. Ouais. Jack Eichel, on lui reprochait de ne pas être un bon capitaine. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il serait un bon capitaine encore.
Non, effectivement.
Il y a du leadership dans l'organisation de Vegas qui n'émane pas de lui. Puis là, à ce moment-là, ben, lui, il peut bénéficier d'avoir moins de responsabilités au niveau du leadership aussi.
Ben, je ne veux pas l'excuser, mais à Buffalo, il était comme laissé à lui-même aussi, là, on va se le dire. Il était à Buffalo dans les pires moments des Sabres. On voit la lumière au bout du tunnel à Buffalo, mais c'était vraiment pas glorieux quand il était là. Là. Il n'y avait aucun gars pour l'aider qui pouvait lui montrer le droit chemin. C'est des défaites après défaites. Là, il est dans une organisation qui est capable de gagner. Des gars qui peuvent lui dire « Hey, reste avec nous, des affaires comme ça. » Je sais pas, peut-être qu'il n'a même pas besoin de ça, mais tout est là pour lui. Là.
Tu sais, je me rappelle quand il était à Buffalo, j'ai regardé quelques matchs à un moment donné, puis ce que j'ai remarqué, c'est qu'il demandait souvent la passe, puis les gars, ils passaient même pas la rondelle. Fait qu'il y avait quelque chose. Il y avait quelque chose qui marchait pas, que ce soit lui ou que ce soit le vestiaire. Il y avait de quoi qui marchait pas dans cette équipe-là. Ça,
c'est effectivement. Oui, je suis d'accord avec toi, Yves, là-dessus.
Sinon, maintenant, on va se téléporter du côté de l'Est puisque les Panthers, ont réussi à se rendre en finale de la Coupe Stanley. Pour la première fois depuis 1996, l'équipe floridienne va aller en finale. La dernière fois, ils ont affronté l'Avalanche du Colorado et ils avaient perdu contre Patrick Roy. Mais là, la réalité ne sera peut-être pas la même. C'est pas une équipe en tant que telle qu'on voyait en finale, mais depuis le début des séries, c'est une équipe qui fait écarter les yeux de manière importante.
Effectivement, personne, en tout cas, à moins d'un fan des Panthers qui avait dit « Ah, je les vois en finale », mais même les partisans des Panthers, on en a un dans la coupe, justement, Maxime, qui est le premier surpris. Tu sais, déjà qu'il avait fait des séries, plusieurs fans du CH voyaient ce choix-là, comme Connor Bedard, un choix top 10, et là, ça va être 31 ou 32e, mais chapeau aux Panthers. C'est encore là, Paul Maurice, un mal-aimé des dernières années.
Je l'ai toujours aimé.
Mais beaucoup de monde le déteste. Paul Maurice dit que c'est un mauvais coach. C'est un peu lui qui était responsable de l'ambiance chez les Jets.
C'est eux autres le problème.
Ouais, c'est ça, c'est l'organisation qui est le problème. Mais et c'est un 0 Golden Knights en passant. Mais, mais ça me comme sautille en même temps. Mais... C'est quoi que je disais?
Là, tu parlais de Paul Maurice.
Paul Maurice. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un bon coach qui avait gagné partout ce qu'il était. Il avait peut-être pas gagné la coupe, mais tu sais, à un moment donné, il y a juste un coach qui gagne la coupe. Fait que ça veut pas dire que tu gagnes pas la coupe, il était un mauvais coach. Mais là, cette équipe-là, tu vois qu'il était intense sur le banc. Hier, il donnait un coup de poing à son assistant coach. Je sais pas s'il avait fait chier, là, mais c'était un bon coup de poing de victoire. Là.
Ah, OK.
ça m'a surpris un peu. Mais le gars, il est derrière les Panthers, pareil. C'est lui qui a bâti l'équipe. Puis sérieusement, les joueurs, sont comme j'avais dit tantôt, sont dédiés à la victoire. C'est sûr que Mathieu Tkachuk, c'est la locomotive là, avec Bobrovsky en avant. Les deux travaillent fort. Puis je pense que quand tu vois un gars travailler fort de même, ben, ça ne te prend pas grand-chose pour suivre. Puis Sérieusement, un gars qui me surprend beaucoup, c'est Etu Luostarinen, qui est un joueur qui est un bottom six player, mais il joue du gros hockey, il joue beaucoup défensivement. Puis c'est un choix des Canes, des Hurricanes de Caroline. Fait que je pense que lui avait comme une
Un petit quelque chose de
rancœur, ouais,
plus.
une petite affaire de plus quand tu joues contre l'équipe qui t'a repêché, mais qui n'a pas cru en toi. Fait que lui, il me surprend beaucoup, mais tous les joueurs des Panthers sont dans le bateau. Là. Bennett qui frappe fort. Même Nick Cousins. Nick
Capitaine.
Cousins est en finale de la
Je
Coupe
sais.
Stanley. Qui peut y croire? Dans un rôle top 6, encore plus bizarre. Mais tu sais, Barkov aussi qui joue blessé, visiblement, il a manqué le match numéro 3 presque au complet. Brandon Montour qui est con. Sérieusement, chaque joueur, on pourrait nommer chaque joueur, puis on pourrait nommer une qualité, puis qu'est-ce qu'il fait de bien, puis qu'il apporte à l'équipe. Chacun travaille fort, puis chacun apporte sa petite chose qu'ils font, qui sont collectivement, sont durs à arrêter pour vrai. J'ai hâte de voir en finale, voir s'il va rester du jus, j'espère.
Et un point que j'aimerais souligner, c'est que Paul Maurice est vraiment reconnu pour ses speeches de motivation. Fait que
Ouais.
ça a l'air que c'est un gars qui est hyper bon pour motiver ses boys. Puis là, en ce moment, ses boys sont motivés, sont en confiance. So, bref. Là, on va se référer à un commentaire de Félix qui nous dit que Tkachuk est une machine, puisque oui, Matthew Tkachuk connaît des séries de fous. On parle de rien de moins que 21 points en 16 matchs pour ce qui est de Matthew Tkachuk. 3 buts de la victoire sur 4 matchs lors de la série contre les Hurricanes. Je l'aime pas, mais il est bon.
Moi, je l'aime. J'aime les frères Kachuk. J'ai pas checké beaucoup de paires parce que j'ai commencé à suivre le hockey plus jeune. Mais sérieusement, Mathieu Kachuk, c'est une bête. C'est vraiment une bête. Puis sérieusement, pour les fans canadiens qui écoutent le podcast, j'espère que Brady sera pas aussi tannant et aussi bon parce que ça va être tough. Ça va
Parce
être
que le talent
tough.
offensif de Matthew Tkachuk est assez. Il est plus dérangeant que je m'attendais, mettons. On va dire ça comme ça. Je le voyais comme étant plus talentueux que son frère, mais là, 100 points, puis là, plus d'un point par match en séries éliminatoires.
Ah,
Et
j'étais le
là.
premier à douter de la transaction.
Ouais,
Et puis là, je me dis, si les Panthers vont chercher une coupe, ben, ils ont gagné la transaction parce que le but, c'est de gagner. Puis oui, peut-être qu'ils n'ont pas beaucoup de choix de première ronde pour les prochaines années. Mais si, comme j'avais parlé avec Anthony Sédaman, un gars du podcast aussi, que si Brandon Montour continue comme ça, Gustav Forsling, c'est des gars, c'est tous des gars qui n'ont même pas été repêchés. C'est tout par l'organisation. C'est des gars qui ont été repêchés par une autre organisation, qui ont allé chercher Reinhardt. Reinhardt, Ekblad et Bennett sont top 5 du même draft. Ils ont juste repêché Ekblad là-dedans. Reinhardt et Bennett sont allés chercher ailleurs. Bennett, personne ne voulait. Puis Bennett, c'est oui, ça fait de pointage moins présent, mais sa présence physique.
est
On l'a
important.
vu hier avec Slavin, malheureusement. Là, que...
On va en parler un petit peu de
Ouais.
Bennett, mais je veux quand même revenir ici. Mauvaise couverture des Hurricanes sur Tkachuk pour le but gagnant. Moi, ce qui m'a vraiment déçu dans cette série-là, c'est vraiment l'efficacité des Hurricanes d'habitude à bloquer le centre de la patinoire. Puis vraiment, comme il vient de le mentionner, là, sur le but de la victoire, c'était le cas, mais c'est arrivé une couple de fois qu'ils étaient capables de se rendre dans le bas de l'enclave, puis on dirait qu'il n'y avait personne pour les empêcher.
Ouais, ben, c'est sûr qu'hier, le but de Tkachuk, faut pas oublier que les Hurricanes ont joué à 5 défenseurs probablement tout le match. Leur meilleur défenseur défensif, Slavin, était pas là. Fait que probablement plus de fatigue mentale vers la fin du match qui a fait l'erreur parce que c'était un but en désavantage numérique aussi. Ben, en avantage numérique
Un
pour les
avantage
Panthers.
numérique, ouais.
Mais c'est sûr que le hockey, c'est un jeu d'erreur. Fait que c'est ça qui est arrivé. Mais moi, je pense que les Hurricanes ont quand même joué une bonne série. Faut pas oublier que les Hurricanes étaient privés de Andrei Svechnikov, Max Pacioretty et Teuvo Teravainen qui n'était pas à 100% non plus. Fait que, tu sais, on jouait avec des Paul Stastny, des Derek Stefan, des Stefan Nosen. À un moment donné, ça allait les rattraper, puis on l'a vu. Cruel manque d'attaque. Tu sais, Nekas et Aho ne peuvent pas tout faire. Fait que, on a vu que c'était des matchs à bas pointage. C'est ce que les Hurricanes voulaient, mais d'un côté, il y avait un numéro 72 qui était complètement en feu, Sergei Bobrovski.
Sergei Bobrovski, qui on, ben, je pense qu'on n'aura pas fini d'en parler, là. Mais tu sais, c'est un gars qui va vraiment sauver les meubles de l'organisation parce qu'en 14 matchs, 935 d'efficacité, mais encore là, c'est encore plus ridicule pour je pense que c'est les 5 derniers matchs, il y a genre 960 ou quelque chose comme ça.
968 pour la série contre
Ah,
les Hurricanes.
ça s'en est carrément ridicule, là.
968 en série. C'est 150. Il a fait 158 sur 164, je pense. Arrêt. C'est quand même incroyable. Il y a un match de 60 arrêts là-dedans. Mais c'est fou. Bobrovski, c'est le Bobrovski qu'on connaissait à Columbus en saison. Puis le Bobrovsky qu'on a vu aussi contre le Lightning, contre les Bruins en série, il avait bien gardé les buts pareil. Mais là, il est à un autre level. Puis hier, quand Tkachuk a marqué à 4 secondes, la caméra s'allait vers lui, puis il pleurait dans son masque. Tu voyais vraiment.
Oui.
Puis ça, c'est venu me chercher un peu. Là. Je veux dire, Bob, c'était mon gardien favori. Ben, c'est encore mon gardien favori. C'est un de mes idoles. Puis je suis content de le voir avec tout le bashing qu'il y a eu les dernières années avec son contrat et tout. Il prouve. Tu sais, dans le fond, il se préservait, Bob, les dernières années.
OK. Je vais y aller maintenant avec une question qui nous est posée. Alors, Amelia qui nous pose la question. On y va pour qui? Pour le Conn Smythe. Écoute. Première ronde, moi, je te dirais que j'étais comme Matthew Tkachuk, là, il est en train de sauver la donne. Deuxième ronde, je dis Bobrovsky est en train de sauver la donne. Troisième ronde, Bobrovsky et Tkachuk, les deux pour moi. Fait que, ultimement, je vais y aller avec Matthew Tkachuk parce que je pense qu'on préfère les joueurs offensifs, mais ouais. Je pense que ça serait mérité pour les deux.
C'est sûr, mais on a eu un bon débat sur à la coupe avec ça, sur la petite conversation qu'on a sur ça. Et moi, c'est Bobrovsky pour moi. C'est sûr que vous allez dire que j'ai un parti pris. Peut-être.
Oui,
mais en même temps, je veux dire, les chiffres sont là. J'ai vu que sur les stats avancées, je suis pas un fan des stats avancées, mais je pense qu'il y a 18 buts qui auraient dû rentrer, qui a arrêté. C'est plus dominant la performance de Bobrovsky que la performance de Price en 2020 avec les Canadiens. Puis on se rappelle à quel point Price était dominant. Fait que statistiquement, Bobrovsky est meilleur. Tkachuk, parce que les deux le mériteraient. C'est ça le pire. Mais moi, je vais avec Bobrovsky parce que je pense que c'est le gars qui nous surprend le plus dans tout ça. Parce que Tkachuk a fait 100 points. On sait que c'est un gars qui va être tannant, qui va être dérangeant, qui est clutch. Il est clutch. Sauf que Bobrovsky a tellement fait d'arrêt important. Puis il y a des matchs, j'enlève rien à Tkachuk, mais le premier match qui s'est terminé en quatrième prolongation, moi je l'ai pas vu beaucoup, Matthew Tkachuk, pour vrai. Il a scoré, oui, mais il y a des absences de Tkachuk, tandis que Bobrovsky n'a jamais été absent des séries. Presque pas de mauvais but. Puis quand on a battu les Bruins du côté des Panthers, c'est quand Bobrovsky est arrivé que ça a changé de bord. C'était Alex Lyon qui a commencé. Bobrovsky arrive, puis moi je me rappellerai toujours, moi c'est l'homme fait saillant des séries à date. C'est l'échappée de Brad Marchand au match 5. Il reste 3 secondes. Il tire, il reste 1,4 secondes. Arrête Bobrovsky. Si Marchand score, c'est terminé. Les Bruins, ils passent, les Panthers éliminés. Et depuis ce temps-là, les Panthers sont presque invincibles à l'extérieur aussi. Ils sont incroyables. Mais j'ai un parti pris pour Bobrovsky. Moi, c'est Bobrovsky. Mais si vous dites Tkachuk, j'entends votre réponse, mais selon moi, Sergei Bobrovsky.
J'entends ce que tu dis.
Vous entendez, hein?
Amelia nous règle le problème. Elle nous dit que ça va jouer en finale, puis je suis assez d'accord.
Ben, c'est vrai. C'est vrai. Il reste la ronde la plus importante, puis il n'y a rien de gagné du côté des Panthers.
Ça, c'est clair.
Mais si ça reste serré, puis du côté de Vegas, je pense que c'est pas mal. Ça ne me surprendrait pas que Bobrovsky pourrait gagner le Conn Smythe sans gagner la Coupe Stanley. Si ça se rend en 7 et qu'il continue comme ça, du côté des Golden Knights, c'est plus un jeu collectif. Oui, on a Mark Stone qui joue du hockey incroyable, mais je sais que Jean-Sébastien Gigal avait gagné quand il avait perdu. Puis je pense que si ça se rend en 6 en 7 et Bobrovsky n'accorde pas beaucoup de buts, ça pourrait être lui même s'il perd.
OK, j'entends ce que tu dis.
Entends-moi. Entends-moi.
un dernier petit commentaire maintenant concernant la Bobrovsky. Ben, on dit que c'était censé être l'année de transition Bobrovsky et Spencer Knight. On connaît les événements un peu malheureux qui sont arrivés pour Spencer Knight. Ce ne sera que partie remise, mais Bobrovsky, il reste encore quelques bonnes
années. Il reste encore 4 ans à son contrat. Fait que je pense pas que tu veux avoir un gardien backup à 10 millions. Là. Fait que tu sais, on sait que Bobrovsky a eu des problèmes à la hanche et à l'aine, mais ça a l'air d'être réglé. En tout cas, tu sais, c'est pas comme Price qui avait des problèmes récurrents à son genou. Je dis ça de même, peut-être qu'il y en a, puis on n'entend juste pas parler. Mais Bobrovsky a l'air d'un gars qui se préserve bien, qui a l'air en forme. Fait que je sais pas si vous avez vu son entrevue d'après-match avec Henrik Lundqvist, c'était du bonbon aussi. Tu voyais que les deux étaient contents de se parler, puis qu'il y avait un respect mutuel. Fait que j'ai adoré ça, puis je pense que Bobrovsky, sa carrière est pas terminée. C'est peut-être même un regain de carrière ou c'est Il donne tout parce que c'est la fin. C'est un des deux.
C'est soit que c'est fini ou ça continue. Écoute, c'est un des deux.
C'est un des deux, t'es. Facile à dire.
OK, ben écoute, pour l'instant, en tout cas, tout va pour le mieux. C'est une organisation qui rentre en confiance en séries éliminatoires. Tu nous as parlé un petit peu là, de Sam Bennett, qui a joué très intense physiquement aussi. Ça, c'est intéressant. J'aimerais ça qu'on parle rapidement. Matthew Tkachuk, Brad Burns, c'était pas l'amour entre les deux gars. Un coup ben... quand même assez vicieux dans les...
Pour être bien frais, Matthew Tkachuk, ça peut être l'amour avec bien grand monde. À part ouais, de ses coéquipiers.
Burns était après lui, par exemple.
Ouais, ben Burns, c'est un. Il est pas né de la dernière pluie, là. Il sait qu'il faut qu'il dérange le meilleur joueur de l'autre côté. Mais des coups dans les parties comme ça, dans n'importe quel sport, même dans une bagarre, là, tu sais, dans la UFC, c'est interdit. C'est pas pour rien, c'est des coups bas. Moi, je respecte Brent Burns encore là. C'est un peu comme Jimmy Benn, mais il y a une crampe au cerveau. Tu fais pas ça. Il n'y a pas eu de punition non plus pour ça. Ça me désole complètement. Wes McCauley était là. Wes McCauley, qui ont dit que c'était le meilleur arbitre, mais dans les deux dernières saisons en série, il a été dégueulasse. Pour vrai, là, Wes McCauley, t'es bien le fun à écouter quand tu donnes des punes, mais à un moment donné, il faudrait peut-être que tu commences à caler ça sur le centre du monde. Parce que en faisant ça, puis en calant rien, ça envoie un message. Ça envoie un message aux joueurs. Tu sais, faites-le, c'est pas grave. Alors que ça peut être très dangereux un coup dans ces parties-là en plus.
Ben oui.
Fait que. Moi, j'ai trouvé ça cheap, mais je respecte Brent Burns pareil. C'est dans le feu de l'action, mais c'est cheap.
Eh bien, écoute, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que les Panthers vont aller en finale de la Coupe Stanley, ce qui veut dire que le Canadien ne repêchera pas dans le top 10 avec ce premier choix-là.
Ah ouais?
Probablement choisir 31e ou 32e, peut-être même 32e. Et on aurait
32e.
On aurait pu éviter tout ça si les de pingouins avaient gagné. Si les Pingouins gagnaient, on pouvait choisir dans le top 10.
Écoutez, les Pingouins, il fallait qu'ils gagnent contre les Blackhawks et les Blue Jackets. Ils ont perdu les deux matchs. Les deux des trois pires équipes de la Ligue. Ben, je sais que contre Columbus, c'était terminé déjà. Là. Il y avait pas de... Mais contre Chicago, là, c'était pas fort. C'était pas fort, les amis.
Est-ce que tu es capable de faire un petit mot rapide sur le championnat du monde? J'ai vu, je pense que c'est genre la Lettonie qui s'est qualifiée.
Oui, la Lettonie et l'Allemagne se sont qualifiées pour les demi-finales. Alors, sans dire, là, je jinxais le Canada puis les États-Unis bien raides, mais les demi-finales, c'est États-Unis-Allemagne et Canada-Lettonie, de ce que j'ai vu. Je ne suis pas sûr à 100% parce que j'ai regardé ça sur la TV tantôt puis c'est arrivé de même. Fait que je ne sais pas si c'était une reprise du Canada-Lettonie qu'ils ont eu aux phases préliminaires ou c'est vraiment ça. Mais en tout cas, selon ce que j'ai vu, ça serait Canada-Lettonie, États-Unis-Allemagne. Fait que techniquement, on devrait avoir une... Techniquement, j'ai jinx bien raide. Désolé pour ça, mais j'ai jinx. Canada-États-Unis en finale, ça serait incroyable. Deux équipes qu'on disait, qui ont donné un line-up de marde. Puis là, ils s'en trouveraient les deux équipes en finale. Ça serait incroyable, mais la Lettonie est à domicile dans ce tournoi-là. C'est à Riga. Ouais, c'est une double motivation pour ces joueurs-là. Mais Arthur Silovs, le gardien de Letton, il y a tout le temps un gardien de Letton qui sort à quelque part. Quand c'est pas Elvis Merzlikin, c'était Kristaps Gudlevskis. Quand c'est pas, c'était Matis Kiviennex qui malheureusement est décédé. Mais Arthur Silovs est repêché par les Canucks de Vancouver, a joué 5 matchs avec les Canucks cette année. Si ça peut être un bon gardien, là, il a été quand même 909 d'efficacité dans la Ligue américaine cette année, 908 dans la Ligue nationale. L'échantillon est pas gros. Mais présentement, il est à 929 au championnat du monde contre les meilleurs, ben pas les meilleurs joueurs au monde, mais quand même contre des puissances mondiales. Sentait que la Lettonie, c'est pas la meilleure équipe. Fait que peut-être que les Canucks ont un bijou entre les mains et il a seulement 22 ans, je crois. Bob Hartley l'a connu à 15 ans puis il a dit que c'était un des gars les plus faciles à coacher de sa vie. Fait que voilà. Ah, ben, c'est ça. Merci Yann. C'est ce que je voulais qu'on conserve comme confirmation. Mais anyway, ça pourra pas arriver, Canada-États-Unis, j'ai jinxé. Désolé.
Mais t'arrêtes pas de répéter ça depuis tantôt. C'est quoi jinxer?
Jinxer, c'est quand tu dis de quoi? C'est comme, mettons, il reste 5 minutes à un match. Tu dis, ah, ça sent le blanchissage. Jinx. Ah, c'est comme si tu dis de quoi qui va arriver, mais à cause que tu en as parlé, ça n'arrivera pas. Fait que c'est ça. C'est, là, comme là, j'ai parlé, j'ai vendu la peau de l'ours. Là. Tu sais, l'Allemagne et la Lettonie en demi-finale, je pense que c'est la première fois qu'ils y vont. Là. Peut-être pas, là, mais c'est quand même. Moi, j'aime ça voir ça, Yves. Je sais pas toi si t'aimes ça voir des petites nations. Oui. Essayer de. Tu sais, comme la Norvège qui a battu le Canada, ça reste que. Eux autres, c'est leur Coupe Stanley. Tu sais.
Ouais. Mais tu sais, je vais être honnête avec toi, le hockey international, souvent je ne le suivais pas à cause de ça, parce que je trouve qu'il y a des équipes qui sont beaucoup trop fortes comparativement à d'autres. Il y a une inégalité qui ne m'intéresse pas du tout. Fait que tu sais, quand ça arrive, genre Suède, Finlande, États-Unis, Canada, Russie, là, je commence à trouver ça intéressant.
Les heures sont moins aussi. Je sais que tu travailles souvent le jour, l'après-midi, puis quand c'est souvent en Europe, c'est l'après-midi, les matchs ou le matin. Fait que... Mais moi, c'est sûr que j'ai une attention particulière pour le Canada parce que Samuel Blais, je le connais personnellement. Fait que j'aimerais ça qu'il rapporte une médaille d'or, qui sait, après la Coupe Stanley. Mais j'aime voir les pays. Sauf que là, le problème qu'on a présentement, c'est que la Russie et la Biélorussie ne font pas partie des 10, des sont 16? Je pense qu'ils sont 8-8. Mais là, ça fait qu'il y a encore plus de pays. T'sais, on a la Hongrie qui est là cette année. J'ai jamais vu la Hongrie dans le championnat du monde hockey. Puis ils ont quand même bien paru. Puis la Slovénie aussi, qui est le seul joueur connu de la Slovénie, c'est Andrzej Kopitar. Fait que, tu sais, sinon, c'est des pays, mais ça a quand même été pas si pire. Fait que chapeau à ces équipes-là. Mais je veux juste vous dire, vous n'avez pas affronté les vraies équipes Canada et équipes USA. Ça serait autre chose avec des Connor McDavid, je pense, et des Sidney Crosby dans la formation. Voilà.
Ouais, ben ça, c'est sûr et certain que si les équipes étaient complètes, ça serait complètement autre chose. Parce que ouais. On n'a pas nos équipes complètes.
On a l'équipe Z, je crois, du Canada.
Oh, c'est méchant. Mais on n'a clairement pas l'équipe A, ça c'est clair.
Non, c'est sûr.
All right. Alors, c'était moment de célébration dans ton petit coin de pays, mon cher ami, cette semaine, puisque l'équipe locale de la LHGMQ, les Remparts de Québec, ont remporté le trophée qui a changé de nom. Gilles Courteau, maintenant.
Trophée Gilles Courteau, yes, sir.
Anciennement président. Alors, Gabriel est avec nous pour en parler. Gabriel, comment ça va?
Bonjour, ça va bien et vous?
Oui, ça va très bien. Alors, Gabriel, rien de moins que des records d'assistance pour cette finale-là. Et puis, finalement, après 47 ans, 46, 47, en tout cas, pas loin d'une cinquantaine d'années d'attente, Québec retouche à la Coupe. C'était comment?
Écoute, écoutez tous les matchs, vraiment des gros matchs, des bons matchs aussi, vraiment intéressants à écouter. Et Québec, on en a parlé un peu des trois premiers matchs, mais Québec rendu au moment où ils pouvaient gagner la Coupe à domicile, l'ont échappé. Ça, j'ai trouvé ça quand même triste pour eux. Mais ça a donné du bon hockey en finale, en vraie finale, par contre. Mais Mathis Rousseau, au match du vendredi, a été super bon d'ailleurs. Il a fait 35 arrêts. Ça a été un match de 3-2, un match quand même serré. Somme toute, et je pense que les Remparts avaient quand même beaucoup de pression à domicile. Ça a fait. Avec tout le monde qui avait là. Puis en plus, ils voulaient gagner la Coupe. C'est ça. Mais vraiment, un beau spectacle au match du. Tu l'as écouté, Sam?
Ben, j'ai pas pu l'écouter. J'avais un enterrement de vie de garçon, mais j'étais à Québec, au centre-ville. Fait que on a senti quand les Remparts ont gagné que il y avait des TV qui étaient allumées partout, un peu partout dans les bars, puis le match était présenté, puis les cages de sport étaient pleines. Fait que il y avait de l'ambiance, puis à la fin, je suis sorti un peu au bar plus tard dans la soirée, puis ça parlait des Remparts. Fait que c'est quand même juste une équipe junior techniquement, mais ça reste que pour une grosse ville comme Québec, c'est beau de voir ça. J'ai trouvé ça quand même assez le fun. Puis en plus, j'ai eu la chance d'aller voir un match, le match numéro 1 de la finale. Fait que j'ai pu vivre au moins le. Parce que je pense pas que les Remparts vont répéter ça de si tôt, là, une équipe aussi dominante. Fait que je suis content d'avoir vécu ça.
Puis là, si je ne me trompe pas, ils ont juste une défaite en série?
Non, deux.
Okay. Deux. Quand même un parcours qui est presque sans reproche. Hein. Ouais. C'était une première aussi pour le retour des Remparts et de Patrick Roy qui a remporté finalement ce trophée-là. On se rappelle qu'il avait gagné la Coupe Mémoriale, mais là, il a gagné le trophée Gilles Courteau. C'était un moment qui était quand même émouvant pour Patrick, ça c'est sûr et certain.
Ah oui, bien écoute, c'était tellement beau de le voir sur la patinoire après le match. Ça, on voyait sa joie, même si c'est pas nécessairement le plus démonstratif. Je suis contente pour lui. Là. Il méritait 100% cette coupe-là. Et l'équipe la méritait à 100%. Je croyais, et je ne suis pas la seule, que les Remparts allaient encore choquer. Et ça n'est pas arrivé. Et un super beau parcours. Le match de dimanche est
Désolé!
Va falloir que tu parles à ton chat, il payait de l'alcool, quelque chose. Là.
Je suis content, lui aussi, que les Remparts aient gagné,
c'est
pour ça.
Ouais, c'est ça, c'est un fan des Remparts
d'Denver.
Fait que...
OK.
Quel match dimanche qui est le match de la finale là, ça s'est passé dans les dernières minutes là, tout ça et on pensait avoir Alpha a commencé en force avec 2-0 en deuxième période. Après ça, si on, les Remparts ont remonté de 1, après ça a été 3-1. Puis là, après ça, les Remparts ont monté 3-3. Et ça a été comme ça jusqu'à très près de la fin. Là. Et à, je pense, à 16:47, le Rhume va marquer. Ça va être 4-3. Puis là, tout le monde pense que William Rousseau va sortir de son but. Finalement, à 17:52, Kassim Godet égalise pour faire 4-4. Puis à 59 secondes de la fin, Pierre-Olivier Roy marque.
58.4, je pense.
58.4, exact.
Pierre-Olivier Roy, yes sir.
Comme fin, là, pour vrai. J'étais sans mon TV. J'ai vraiment trippé pour le vrai. C'était un très bon match.
Puis sinon, ben, du côté d'Halifax, c'est quand même une bonne foule aussi, la Batum. C'est une équipe.
10 000.
10 000, oui. Ben, excusez-moi, mais je veux dire, dans le sens, c'est bruyant. Là.
Oui, oui. Ben, c'est quand même. L'aréna est faite plus petite que Centre Vidéotron. Puis il y a 10 000 personnes dans une aréna, c'est quand même bruyant. Puis les gens d'Halifax, c'est des bons partisans de hockey.
Ouais.
Mais ce n'est que partie remise pour les Mooseheads, qui l'année prochaine vont avoir un méchant bon club aussi.
Oh, oui.
Je pense qu'il y a 16 ou 17 joueurs qui reviennent. Il y a Doucet, puis il y a. Voyons l'autre joueur, Lawrence, qui ne reviendront pas. C'est des gros morceaux, mais ils vont aller en chercher à date limite. Dumais va être là. Tous les joueurs de la défensive vont être quand même assez fortes des Moussettes l'année prochaine. Fait que j'ai hâte de voir. Puis je leur souhaite l'année prochaine, tu sais, la coupe. Mais je me dis, tu sais, cette année, ils l'ont perdu, mais c'est une équipe, une organisation que j'adore, les Moussettes d'Halifax, puis ils ont un méchant beau logo. Fait que
ça change pas. Tout.
Ben, moi, je pense que ça aide, Yves, pour vrai. Puis, on en a parlé tantôt, mais les Remparts ont perdu aucun match à l'extérieur en série. Pitch parfait à l'extérieur. Ils ont perdu leurs deux matchs à domicile. Fait que la Coupe Memorial, pourquoi pas? T'sais.
Ouais.
C'est à l'extérieur.
Ça, c'est un gros point. Écoute, c'est un point majeur.
Ouais, c'est un point majeur.
Je sais pas pourquoi, mais Amélie nous demande une imitation de Ray.
Oh non!
Ray, c'est le commentateur des Remparts. Tu as sûrement entendu quand c'est Malatesta qui marque M-A-L-A-T-E-S-T-A. Tout le monde ensemble, Malatesta!
Oh wow!
Et surtout aussi quand il William Rousseau fait un arrêt, Will the Trip, là, il dit il n'y aura pas de retour. Là. Des trucs.
Mais ça fait vraiment longtemps qu'il fait ça.
Ouais.
Puis moi, je l'aime parce que c'est sûr que c'est un. Dans l'hockey junior, les commentateurs sont vraiment fans de l'équipe. Ils sont payés par l'équipe, c'est normal. Mais Ray the Sport, c'est comme ça qu'il l'appelle, est incroyable pour vrai. Moi, je l'adore. Là. C'est sûr que si t'es pas un fan des Remparts, c'est sûr que tu l'aimeras pas tant. Mais c'est pas grave.
OK, mais ça a l'air d'être tout un show. Et là, la question que je me pose, un nom composé, il l'appelle-tu au complet?
Il y a pas beaucoup de noms composés des Remparts. Je pense qu'il y a Marquis Laflamme, mais il joue pas. Fait que faudrait qu'il joue. Il m'a texté Patrick, tu fais le jouer. On va voir.
On va voir qu'est-ce qu'il va dire. OK. Puis avant qu'on quitte là, la finale, j'aimerais ça aussi qu'on parle. Il y a le trophée Guy Lafleur qui a été remis au meilleur joueur des séries éliminatoires.
Bam! Ah! Non, c'est pas vrai.
Oh! J'en ai parlé. J'en ai parlé tout le long des séries. Ouais. Le Québec, Malatesta a été incroyable. Moi, ça a été mon joueur coup de cœur des séries éliminatoires Malatesta. Puis, il a eu 20 points en 18 parties. Il y a 14 buts et 6 mentions d'aide. Ça, il a capté vraiment mon attention beaucoup. Puis, les Blue Jackets sont vraiment chanceux.
Ouais.
J'apprécie
Ben, 5 buts gagnants aussi en série. Puis dans le match numéro 6, c'est lui qui a marqué le but, qui a fait 3-2, qui a comme remis les remparts dans le match, il a fait 3-3 après. Fait que c'est un gars qui est là dans les grandes occasions. Par contre, je veux mettre deux thumbs up à Justin Robida. Justin Robida, je pense qu'il a aussi mérité le joueur par excellence. Un attaquant qui n'est pas très gros, mais qui a du cœur au ventre. Il s'est donné à 100%. Ça a été un des meilleurs joueurs aussi. Puis c'est une acquisition des remparts en plus. Fait que, Justin, tu le méritais aussi. Mais mon boy James Malatesta, je suis bien content pour lui aussi.
Ouais, moi aussi. J'ai d'autres fleurs à passer. Par contre, il n'a pas été aussi étincelant en finale. Et c'est William Rousseau qui a connu des magnifiques séries. Mais je ne sais pas s'il a été blessé, c'est la fatigue en finale, mais c'était pas le même. Mais par contre, il a été très important pour les remparts dans plusieurs matchs. Puis je pense que c'est important de le souligner.
Fait partie d'une pièce importante.
Moi, ça ouais.
Puis sinon, qu'est-ce qui a manqué du côté d'Halifax qui fait qu'on l'a échappé ça?
Ben moi, je dirais les blessures. Les blessures ouais. ont fait mal. Je sais que les remparts, Robida aussi est blessé, puis Truchon, Savoie. Mais ça reste qu'il y a beaucoup il y a des joueurs qui ont manqué des matchs. Pour l'heureux, je le déteste, mais c'est un bon joueur pareil. Quand les cellules sont bien placées, ça va super bien. Mais il y a tout le temps une cellule qui passe mal à quelque part, ça fait un court-circuit. Mais Biasca, je crois, qui a manqué un match. Vidicek. Non, pas Vidicek, en tout cas, le défenseur.
Mort avec.
Ils ont manqué des matchs, puis Dumais aussi, qui n'était pas à 100%. Fait que je pense que, moi, pour moi, c'est ça. Mais comme j'ai dit tantôt, les Moussettes, je veux dire, c'est comme un rendez-vous manqué, mais ils ont une chance, je pense, pour l'année prochaine. Fait que ça fait mal, mais je pense que les gars vont ressortir fort, puis grandir aussi, parce qu'il y a beaucoup d'expérience qui va sortir de là.
Mais ils se sont battus jusqu'au bout, les Moussettes.
Effectivement.
Je ne pense pas nécessairement que c'est quelque chose qui a manqué, mais c'est que les remparts avaient plus que les Moussettes. Ils étaient plus forts, ils étaient complets. Puis je pense que c'est surtout ça qui s'est passé.
C'était l'année des remparts. C'était leur année. Puis l'année prochaine, ça sera l'année des Moussettes.
Voilà.
Mais en début de série, moi, je me rappelle qu'il n'y a personne qui me parlait des Moussettes pour la finale. Ils ont surpris en quelque part. Là.
Ben, tout le monde voyait Sherbrooke, je pense, puis Gatineau, gros dans leur assiette. Mais Halifax, quand ils ont. À 2-0, fait Sherbrooke, tout le monde pensait que Sherbrooke, c'est les Sherbrooke Québec. Puis 4 games de suite, ils gagnent. Puis encore contre les remparts à 3-1. C'est terminé, ils vont gagner la Coupe à Québec. Ils en reviennent. Puis dans le match numéro 6, sérieusement, la game leur appartenait aussi. Là, ils menaient 4-3, il restait 3 minutes. Ils ont échappé, mais. Les chapeaux aux Moussettes, ils étaient tannants. Ils étaient vraiment tannants. Ils ont été dans chaque match. À part le premier match, ça a été quand même pas serré, je trouve. Mais ils ont démontré du fil à retordre. Puis ça, c'est... Je connais pas le coach, mais ils sont très bien coachés, les Moussettes, là, quand même. Mais je trouve qu'ils ont un bon système de jeu. Fait que je pense que c'est excitant. Être un fan des Moussettes, je serais excité pour le futur de cette équipe-là. Puis c'est une équipe qui, on va se le dire, est tout le temps bonne.
Sylvain Favreau, un franco-ontarien.
Ah.
Très bon, très bon.
Très connu dans sa famille.
Ouais, c'est ça.
Donc, salut.
OK. ouais, en fait, là, j'ai comme une petite hésitation. J'aimerais ça aller peut-être du côté de Rouyn-Noranda parce qu'il y a eu une nomination récemment au niveau d'un nouveau coach. Est-ce qu'on le connaît?
Martin Dagenais, mais personnellement, moi, je ne le connais pas. En parler, là.
Je sais que PO le connaît, mais PO n'est pas là.
Ouais, OK, ça.
Mais ça, de ce que j'ai entendu puis ce que j'ai vu sur les réseaux, c'est une très belle embauche pour les Huskies.
Ben, c'est ça ouais. que j'ai vu, moi aussi.
Puis les Huskies, c'est une très bonne organisation dans la GMQ. C'est une équipe qui a beaucoup de succès, qui a des fans incroyables. Fait que je pense pas qu'ils ont pris de mauvaises décisions, même si je connais pas le gars. J'ai confiance en les Huskies de Rouyn-Noranda qui peuvent. Je pense qu'ils savent qui leurs besoins en tant que coach. Fait que je le connais pas, mais de ce que j'ai entendu juste des bons mots sur ça. Fait que voyons voir.
On a quelqu'un ici qui dit moi.
Oh, ben, elle connaît.
Alors, Amelia nous dit entraîneur adjoint de Dave Cameron avec les 67. Le bruit courait depuis longtemps. Alors, il était donc entraîneur adjoint, c'est la OHL, les 67, c'est Ottawa, si je ne me trompe pas.
Ouais, elle m'a devancé parce que j'allais le dire, je savais qu'elle allait l'écrire. Mais c'était une question de seconde, j'étais sûre qu'elle allait l'écrire. Mais oui, elle est très bon. C'est ça, on m'en a parlé quand même un peu. Mais moi,
on m'en a parlé un peu.
Tu voulais pas le dire, c'est tout.
Ouais, on m'en a parlé. Moi, je le connais pas.
On a ici un de nos chroniqueurs, Frédéric Knight, lui qui dit « Martin Dagenais est gagnant partout où ce qu'il va. Il a coaché Junior A avec Ottawa Junior Sense. » Bon, ben OK, ça nous fait un petit topo sur le nouveau coach. Maintenant, on s'en va vers un tournoi qui est très important. Je tiens à souligner, j'ai vu les photos des remparts qui s'en allaient et il y avait un joueur qui avait un sac à dos des Coyotes.
Ça a fait jaser dans la conversation, celle-là aussi.
Oui.
Oui.
Seigneur. Bon, OK, je ne sais pas. Mais bref, j'étais bien content de voir ça partir pour la Coupe Mémorial. Les oui, remparts de Québec qui se dirigent vers Kamloops.
Yes.
Ouais, avec
BC.
Un S.
Yes.
Donc, du côté de Québec, est-ce qu'on peut être confiant pour la Coupe Mémorial face aux forces? Attendez, on va les nommer d'ailleurs, les forces. Bien entendu, il y a l'équipe haute qui est le Blazer de Kamloops. Les Thunderbirds de Seattle avec Dylan Gunter.
Oui, monsieur.
Yeah!
Mais pas seulement lui.
Ouais, non, ben, c'est lui que je connais. Les Peats de Peterborough qui vont représenter l'Ontario et les remparts de Québec.
Yes.
Est-ce que les remparts sont bien placés?
Ben, moi, je pense que c'est pas impossible pour les remparts de la gagner. Là. Écoute, ils ont une forte équipe et oui, il y a d'autres fortes équipes. On parle de Seattle qui en est une bonne, là, que moi, je place comme potentiel victorieux. Ben, pas victorieux.
Les favoris.
les remparts. Sont pas là, sont pas des négligés rendus là-bas, là. Pas du tout. On parle plutôt d'équipe de la OHL, là, qui est les Peats, qui sont un peu.
Ah ouais?
Sur papier, c'est l'équipe la moins bonne, mais tu sais, on pourrait arriver dans une semaine et demie, deux semaines, puis les Peats sont champions de la Coupe Memorial. C'est un tournoi qui se joue rapidement. C'est un round robin, puis tu sais, si tu gagnes un match, tu es assuré de faire au moins une prix d'égalité. Fait que. Ton but, c'est de gagner au moins un match. Après ça, tu vas voir ce qui va se passer. Mais si t'en gagnes deux, t'es assuré d'être en demi-finale. Mmh. Fait que, tu sais, si t'es capable d'aller directement en demi-finale en partant, ça aide. Mais est-ce que les remparts ont des chances? La réponse, c'est oui. Les quatre équipes ont des chances, en fait. Mais les remparts, je pense que il y a quelque chose qui se passe avec cette équipe-là. C'est sûr que je suis pas autant les autres équipes. Il y a sûrement quelque chose qui se passe avec les autres équipes aussi parce qu'ils ont gagné. Mais Patrick Roy, je sais pas. Patrick Roy l'a déjà gagné en plus, tu sais.
Déjà fait.
C'est déjà fait, tu sais. Non, mais la réponse est oui, mais il va falloir qu'il travaille fort. C'est pas donné. Ça sera pas donné, ça sera pas facile. Mais j'ai vraiment hâte à vendredi à 9h contre les Blazers de Kamloops. J'ai vraiment hâte de voir avec une autre ligue parce que ça ne s'affronte jamais ces équipes-là. Fait que, tu sais, est-ce qu'une ligue qui est plus forte qu'une autre? Moi, je pense que la WHL est vraiment forte cette année. Il y avait trois clubs qui étaient vraiment un monstre à trois têtes, là. Même peut-être quatre, là, je dirais, mais les trois, vraiment, Winnipeg, Seattle et Kamloops, c'était vraiment incroyable. Fait que j'ai vraiment hâte de voir des gars comme des remparts qu'on a suivis toute l'année se mesurer à, justement, un Dylan Gunter. Tu sais, c'est un gars qui va faire partie du plan de match, là, assurément.
Puis on a un commentaire qui est intéressant ici d'Amelia qui nous dit « Les Peats surprennent tout le monde depuis le début des séries. Ils ont battu trois des cinq meilleures équipes de la Ligue en séries éliminatoires. » Fait que ça se pourrait qu'ils nous surprennent.
Ben
absolument.
Oui,
leur gardien est incroyable, pour vrai. Le gardien des Peats, je pense que c'est lui qui a gagné le MVP. En fait, je pense que les deux goalers ont gagné le MVP. Thomas Milic à Seattle, qui était gardien de Team Canada. Puis le gardien des Peats, je ne suis pas sûr. Il me semble que c'est pas Davidson, quelque chose genre.
Attends,
il me semble que ça a fini par Sen. Mais en tout cas, c'est lui qui a gagné le MVP de la finale. Fait que des séries, en fait. Fait que le seul joueur qui n'a pas gagné, le seul gardien qui n'a pas gagné, c'est William Rousseau. Fait que,
mais il y a eu des bonnes séries parce que vous m'en avez parlé.
Oui, William Rousseau a eu des bonnes séries, mais le gardien des Peats, c'est des 35, 40, même 50 arrêts par match. Fait que, j'ai hâte de voir, mais il y a quand même Brandon Hartman et Owen Beck, l'espoir du Canadien, qui sont là. Brandon Hartman, l'espoir des Rangers de New York.
Il n'était pas suspendu, Owen Beck?
Il est correct. C'était le reste de la finale. Okay. Fait que, il y a eu un match de suspension. Mais il va être là. Puis Brandon Hartman, c'est un joueur électrisant du côté des Peats aussi. Il y a d'autres joueurs, mais ça reste que c'est les deux têtes d'affiche.
OK. Fait que sinon, on y va avec les favoris. C'est probablement les remparts. Puis Seattle, si je vous écoute bien. Là.
Kamloops ne sont pas à négliger. Kamloops, je pense qu'ils ont perdu contre Seattle, justement, en demi-finale de leur ligue. Mais Kamloops, enterrez-les pas là, tout de suite. Sont très bons. Mais pour moi, puis pour la plupart des gens que j'ai entendus, Thunderbird et Seattle partent favoris. Mais dans ce tournoi-là, quand tout le monde te met favori, c'est rare que tu gagnes. J'ai rarement vu une équipe dominer le tournoi de la Coupe Memorial, 3 victoires, puis on gagne 5-0 en finale. Ça arrive jamais. Fait que j'espère que ça va avoir un bon tournoi, mais il y a du talent. Il y a beaucoup de talent. Je pense que 16 choix de première ronde dans tout ça, là, ou c'est 16 choix au total. En tout cas, il y a beaucoup de choix de première ronde, puis tu as des espoirs des Coyotes. Yves, Jérémy Langlois, Dylan Gunter. Dylan Gunter qui est probablement un des meilleurs joueurs du tournoi, là, quand on regarde ça comme ça. Mais il y a aussi Holland Zellweger à Kamloops, Langen Stankoven. Qui, sérieusement, on est vraiment chanceux pour ceux qui veulent qui adorent la LNH. Hein, les joueurs qui vont être là, si c'est pas l'année prochaine, ça va être l'autre d'après qu'on va les voir dans la Ligue nationale. Fait que, puis il y a des espoirs du Canadien. Ben, il y a un espoir du Canadien. Il y a Jared Davidson qui était meilleur pointeur de Seattle, 84 points, je pense, cette année, ou une affaire comme ça. Là, mais il y a deux espoirs du Canadien qui sont là. Il y a du stock en masse. C'est sûr que c'est un peu tard là, vu que c'est dans l'Ouest, mais 9h, là, come on.
C'est ça. Le gardien, c'est.
Comment?
Michael Simpson.
Ah, oh, je savais que ça ne visait personne.
Ouais.
Wow, c'était précis de même. OK. Fait que bref, là, si mettons vous avez des prédictions, là, je sais, vous m'avez dit que c'est à peu près égal pour tout le monde, mais les prédictions, c'est plate quand on dit tout le monde est égal. Donc, qui va gagner la Coupe Memorial? On va commencer avec toi, Gab. D'après toi, qui remporte cette Coupe-là? Le Seattle.
Seattle et vous serez surpris, mais j'espère fortement que les Remparts vont remporter la Coupe Memorial parce qu'ils ont prouvé qu'ils étaient une équipe de talent et qu'ils méritaient leur Coupe cette saison. Donc voilà, j'aimerais vraiment que les Remparts.
Si je ne me trompe pas, ça se peut-tu, ça ferait genre 3 ou 4 fois d'affilée que c'est une équipe du Québec qui gagne la Coupe Memorial?
La quatrième fois.
Ouais. Finalement, quand on dit que la LHGMQ ne forme peut-être pas bien ses joueurs, c'est peut-être pas tout à fait vrai. De ton côté, Sam.
J'espère de tout cœur les Remparts, mais ma prédiction, c'est les Blazers de Kamloops parce qu'ils ont plus de repos. Ils ont joué une finale de moins, techniquement. Là. Fait que je pense qu'ils sont reposés, qu'ils sont prêts. Ils connaissent Seattle, ils affrontent en série. Fait que ma prédiction, je vais aller avec Kamloops pour faire différents Seattle et tout. Mais c'est sûr que mon cœur est avec les Remparts, fait que je vais encourager les Remparts. J'espère me tromper et que les Remparts vont gagner.
Moi aussi, j'espère me tromper.
Bon, ben dans ce cas-là, je vais prendre pour les Remparts. Écoute, j'ai
oublié. Let's go!
Moi, c'était Seattle qui me tentait pour Dylan Gunter, mais sinon, je sais qu'il y a un joueur des Coyotes aussi du côté des Remparts.
Yeah, Jérémy Langlois, let's go!
All right. Ben, écoute, un grand merci, Gabriel. On va suivre avec beaucoup d'attention, bien entendu, la Coupe Memorial. On peut toujours suivre les textes sur le alacoupe.ca, une belle équipe de chroniqueurs qui travaille fort là-dessus. Je te souhaite une bonne Coupe Memorial et on se reparle très prochainement.
Ben, merci.
Bye-bye. Alors, de ton côté, Sam, c'est combien entre Vegas et Dallas?
C'est 1-1.
C'est 1
Jason Robertson, de ce que j'ai pu voir du coin de l'œil, aurait écrit égalité, mais peu importe c'est qui, l'important, c'est le score. Fait que c'est 1-1 après 1. Les 1 sont frimés.
Fait que... on aime ça tellement. Fait que, on va tenir ça, ce match-là, puisque c'est peut-être le dernier match pour les séries éliminatoires du côté de Dallas. Mm-hmm. Donc, on va se battre jusqu'à la toute fin, ça c'est sûr et certain.
Yes.
Peut-être connaîtrons-nous ce soir les deux équipes qui vont s'affronter en finale de la Coupe Stanley. Mm-hmm. Sam, je te souhaite bonne chance pour les Stars, mais un déficit de 0-3.
Je vais en avoir besoin de la chance. Mais bon, je donne tout ce que j'ai pour les Stars. J'ai mis mon gilet, j'espère que ça va suffire.
Je te le souhaite bien, mon ami. OK, passe une belle soirée et bonne chance.
Bye, toi aussi, bye.
Alors, pour vous à la maison, je vous rappelle que ce podcast-là va être disponible en rediffusion sur YouTube cette fin de semaine. Je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes, toujours au nom de À la Coupe, sur Facebook, Twitter, Spotify, YouTube, bon, enfin bref, name it. Et nous suivre également sur le alacoupe.ca pour vous tenir au courant des actualités hockey. À tous les mardis midi, on a la notif des sportifs animée par Loric Salvaille où il fait un tour de l'actualité hockey. Alors, je vous dis un très grand merci d'avoir été là ce soir. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Et bien entendu, une bonne finale qui va commencer avant le prochain show. Bonne finale de la Coupe Stanley, gang. Bye.